frères et sœurs, nous recevons cet évangile de la transfiguration qui est un passage obligé du carême, comme la semaine dernière, les tentations au désert. Deux passages obligés qui posent un peu notre temps du carême. D'une certaine manière, nous rentrons dans ces fondamentaux pour bien aborder après sûrement ces semaines qui vont nous rester où, pour reprendre une parole de l'Écriture, nous allons pouvoir monter à Jérusalem avec le Christ. Fondé sur ces deux points, le cardinal Barbarin, la semaine dernière, avec les jeunes, les 1700-1800 jeunes qui étaient réunis, en commentant, en reprenant un peu la structure du carême, nous disait qu'on a ces deux points de l'ombre et de la lumière, des tentations au désert et de la transfiguration comme chemin pour monter vers Pâques. Et peut-être que pour nous, nous voyons un peu le carême plus sur la dimension tentation au désert. Ça, on a bien compris, 40 jours, on va jeûner, on a prévu, on sait qu'il en reste à peu près 30, et on compte plus que 30 jours, et c'est un temps difficile, et voilà, il faut visage serré, comme on a une belle ascension, comme les joueurs, les athlètes aux Jeux Olympiques qui disent « j'ai pas encore fait mon marathon, là ». Je suis qu'au premier kilomètre, j'en ai encore plusieurs à faire. Et au fond, cet évangile d'aujourd'hui vient nous balancer un peu cette attitude du carême, non pas pour que vous puissiez vous relâcher, mais pour rentrer un peu plus dans le mystère que nous allons célébrer, au fond avec les tentations au désert et la transfiguration, nous allons pouvoir contempler un peu plus le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Et pas seulement de la mort du Christ, mais de sa mort et de sa résurrection. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, dans les lectures que nous avons entendues aujourd'hui, nous dit « Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. » Comment nous, peut-être pendant ce temps du carême, nous allons contempler non seulement l'ensemble du mystère pascal que nous allons célébrer. Vous voyez, la mort et la résurrection du Christ. D'une certaine manière, on ne fait pas seulement un parcours sur 40 jours, mais un parcours sur 90 jours pour le temps du carême et le temps pascal, qui sont un temps unifié, centré sur la mort et la résurrection du Christ. Quelle conscience, frères et sœurs, avons-nous de la résurrection? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous que le Christ est ressuscité? Quel est le centre de notre foi? Est-ce que cette résurrection du Christ transforme notre vie? Et comment ce temps du carême n'est pas seulement un temps, on y va douloureusement, mais on y va dans cette contemplation du Christ, et justement, comme le disait l'oraison au début de l'évangile, on va demander ce regard, on va pouvoir essayer de contempler la gloire, contempler le Christ qui vient nous sauver. Vous savez, dans le récit, ça va rentrer. Donc on pourrait dire qu'il y a un doublon, tentation au désert et transfiguration. Je ne vais pas trop vite dire mon idée parce qu'elle vient dans mon deuxième point, alors il faut que j'aille dans le bon sens. Un deuxième doublon que nous pourrions aider pour vivre ce temps, c'est ce que nous avons vécu pour ceux qui sont venus à la messe cette semaine, en célébrant la chaire de Saint-Pierre. C'est le doublon entre la profession de foi de Pierre et le regard que l'on a sur Jésus lui-même. Profession de foi de Pierre et transfiguration. Jésus pose la question à ses disciples, pour vous qui suis-je? Et certains disent, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es un des prophètes. Et Pierre va faire cette profession de foi, tu es le Christ. Au fond, Pierre nous invite à rentrer dans une dimension beaucoup plus grande. Qu'est-ce que vous répondez à cette question, pour vous qui suis-je? Pour les apôtres, à l'époque de Jésus, Élie, c'est quand même, avec Moïse, une des grandes figures. Vous voyez, de voir Élie ou Moïse, c'est, je ne sais pas quelle comparaison on pourrait prendre pour vous. Voilà, pour nous, aujourd'hui, voir Élie et Moïse, c'est extraordinaire, vous voyez. Et Pierre va aller plus loin en disant, mais tu es le Christ. C'est beaucoup plus loin dans ce que l'on voit. Et aujourd'hui, dans la transfiguration, eh bien, ils voient Élie et Moïse, ils veulent leur dresser trois tentes, une tente pour Moïse, une tente pour Élie, une tente pour Jésus, donc il y a un peu une manière de les mettre au même niveau, et tout d'un coup, Élie et Moïse vont disparaître. Comment est-ce que, peut-être, dans nos remarques, notre regard sur notre monde, même notre regard sur le Christ, à quoi comparons-nous Jésus? Et comment nous pouvons demander au Christ de prendre sa juste place? Tu es le Messie, tu es notre Sauveur. Tu es le Fils de Dieu. Est-ce que des fois nous ramenons Jésus peut-être un peu à notre niveau humain? Comment nous allons prendre un peu plus d'ampleur sur la figure du Christ? Comment ce temps du carême est aussi un temps pour nous aider à contempler le Christ plus largement? Quelle compréhension du mystère de Jésus! Un troisième doublon que nous pourrions voir pour vivre ce temps du carême, c'est ce qui va suivre la profession de foi de Pierre. Vous savez, une fois que Pierre a dit « tu es le Messie », Jésus va leur dire, eh bien, il faut que le Fils de l'homme entre dans sa passion, qu'il meure et qu'il ressuscite. Et là, Pierre va dire, cela ne t'arrivera pas. Dans l'évangile d'aujourd'hui, juste 6 jours plus tard, 6 jours après cet événement, eh bien, la voix du Père se fait entendre pour lui dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il rajoute par rapport au baptême ces deux mots, écoutez-le, écoutez-le. Comment nous écoutons le Christ lorsqu'il nous annonce sa passion? Comment est-ce que ce mystère de la passion, au fond, nous l'accueillons? Comment nous recevons ce mystère de la passion que le Christ veut accomplir? Dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, cette transfiguration, on le voit, il y a un contexte, on monte sur une montagne, il prend Pierre, Jacques et Jean, et ça nous rappelle un autre moment où Jésus se met à l'écart avec Pierre, Jacques et Jean, sur une autre montagne, un petit mont, le mont des Oliviers. Et dans le mont des Oliviers, il n'y aura plus aucune gloire du Christ. Le Christ nous donne cette transfiguration comme pour nous préparer à vivre ce temps de l'agonie de Jésus, ce temps de la passion. Chez saint Jean, il n'y a pas de transfiguration, mais chez saint Jean, la gloire, elle est déjà dans l'agonie, oui, on pourrait dire cela, dans le jardin des Oliviers, puisque quand les soldats viennent arrêter Jésus, vous vous souvenez, Jésus dit « Qui cherchez-vous ? » On l'entendra le vendredi saint. Et ils répondront « Jésus de Nazareth » et Jésus dira « C'est moi ». Et à ce moment-là, les soldats vont tomber par terre. Vous voyez, la gloire va être présente tout au long de sa passion, dans la passion de saint Jean. Alors chez les autres, on voit plus l'épreuve de la passion et on ne voit pas la gloire est cachée. Et pourtant la gloire, elle est aussi présente dans cette croix. Il y a un chemin pour nous là, plus profondément, dans ce mystère de la croix, comment nous arrivons à dépasser et à voir cette gloire du Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La lecture de la Genèse d'aujourd'hui vient peut-être éclairer ce chemin à plusieurs niveaux, hein. Mais notamment quand on entend Dieu qui dit à Abraham, mais tu ne m'as pas refusé ton fils. C'est une grande épreuve, hein. C'est l'épreuve d'Abraham. Alors nous on sait au départ que c'est une épreuve. Abraham ne le sait pas, il avance dans la foi. Nous on est déjà prévenus, attention c'est une épreuve. Vous voyez, dans la culture d'Abraham où il était l'habitude de sacrifier les enfants, et bien au fond, le Seigneur vient apporter un message nouveau. Non, je ne veux pas le sacrifice des enfants. Mais il met à l'épreuve Abraham dans ce chemin. Je t'ai interpellé parce que, en relisant ce texte aujourd'hui, je me dis, on est souvent scandalisé par ce texte. Je ne sais pas vous si vous êtes scandalisé par ce texte. Comment Dieu peut-il demander à Abraham de mettre à mort son fils? Mais aujourd'hui, d'une certaine manière, dans notre culture aujourd'hui, du monde, ce serait peut-être un peu le contraire. On est scandalisé d'un Dieu qui dit « ne mets pas à mort ton enfant ». Ça nous scandalise. Comment ça? Je fais ce que je veux de mon corps. La vie, au fond, voilà, je décide. Qui est ce Dieu qui me dirait « non, respecte la vie de l'enfant que tu portes. Respecte la vie de ton prochain. » Au fond, ce commandement « tu ne tueras pas » aujourd'hui, notre société nous invite à le réfléchir différemment. Bien sûr, on peut tuer, voyons. On a l'impression que ce texte est inversé. Vous voyez, l'épreuve d'Abraham, ce qui pouvait scandaliser, pourrait devenir une norme aujourd'hui. Au fond, il est normal de faire ce que l'on veut de ses enfants. Et ici, il y a un message clair pour l'époque d'Abraham de dire « Non, Dieu ne veut pas la mort de ton fils. » Mais il y a une épreuve, l'épreuve d'Abraham dans laquelle il entre. Ce qui est étonnant, c'est que quand on relie cela avec ce texte de l'Épître aux Romains, on entend Paul qui nous dit « Dieu n'a pas, lui, épargné son propre fils. Il n'a pas épargné son propre fils, il l'a livré pour nous tous. » Il nous demande d'épargner nos enfants, et lui, il n'épargne pas son fils. Alors, est-ce que nous pourrions reprendre les mots de Dieu? Est-ce que nous pourrions les inverser? Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, Seigneur, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, Seigneur, puisque tu ne m'as pas refusé, Seigneur, toi qui ne nous as pas refusé ton fils, eh bien nous voulons te combler de bénédictions. Et nous voulons qu'il y ait une descendance à cette gloire que tu as révélée sur la croix. Nous voulons, Seigneur, te glorifier par toute notre vie et le témoignage de ces hommes et ces femmes, ces chrétiens qui ont mis leurs pas dans les pas du Christ sont pour nous cette descendance aujourd'hui. Frères et sœurs, demandons la grâce d'entrer dans ce chemin, dans cette contemplation, peut-être difficile, aussi plus difficile de ce parallèle entre la gloire et la croix. Effectivement, nous non plus, eh bien, nous ne sommes pas épargnés d'épreuves. Et nous pourrions demander la grâce au Seigneur de nous aider à voir, avoir un autre regard sur ces épreuves que nous vivons. En discutant ce matin avec le Père Rupnik, il me disait, eh bien, au fond, les apôtres, dans la vallée, ils ne comprendront pas le mystère de Jésus. Il faut qu'ils montent sur la montagne, il faut qu'ils se mettent à l'écart pour sortir un peu de l'esprit du monde, un esprit centré sur nous-mêmes, où l'homme est le centre du monde, pour prendre de la hauteur et comprendre le mystère de Dieu. Nous pourrions demander cette grâce-là, frères et sœurs, de pouvoir, pendant ce temps du carême, monter sur la montagne, et dire, mais Seigneur, montre-moi ton visage. Qui es-tu, Seigneur? Au fond, je ne te comprends pas, je ne te connais pas. Tu es le Christ, tu es le Sauveur. Et Seigneur, aide-moi à voir ta gloire. Aide-moi aussi à comprendre comment traverser ces épreuves. Est-ce que, Seigneur, donne-moi ces temps de cœur à cœur près de toi pour que je puisse voir aussi comment je peux te glorifier dans toute ma vie au quotidien. Frères et sœurs, avec ces deux évangiles, de la tentation au désert et de la transfiguration, eh bien, que le Seigneur nous donne d'ajuster notre marche vers Pâques et que nous puissions enraciner dans ce combat que nous vivons pendant ce temps du carême, cet entraînement au combat spirituel, cet entraînement. Et en même temps, dans ce temps où nous sommes invités à contempler la gloire de Dieu qui s'abaisse, qui se fait proche de nous, eh bien, demandons la grâce avec les apôtres de pouvoir monter à Jérusalem avec le Christ pour ressusciter avec lui. Amen.